Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence dans un collège pour présenter les aides sur la situation sanitaire et dialoguer avec les enseignants, agents et parents d'élèves. Les interviews d'Eliane Bareil et du principal Frédéric Schmitt pour Force 7. Cette année, comme partout ailleurs et à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de cérémonie de vœux à Sisteron. Chris Alessandri a interviewé le maire de la cité de Pollarène, Daniel Spagnou, un retour très lucide sur 2021. Sisteron toujours, le SDIS 04 offre un véhicule d'intervention au centre de secours. Reportage dans ce magazine. Le docteur Patrice Borel préside la Société scientifique et littéraire dinoise, interview par Odile Frison, dans un instant. Les centrales villageoises développent la production d'énergie solaire sur les territoires. À Banon, une dynamique est lancée, Mathieu Marc est allé à la rencontre des porteurs du projet. Et puis à la fin de ce magazine, nous verrons que des futurs moniteurs VTT d'Aix-en-Provence étaient en formation vélo et GPS à Gréoux-les-Bains. Le conseil départemental 04 auprès des collèges pour lutter contre le Covid.
Dans le respect de ses compétences, le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence est mobilisé pour participer à la lutte contre la propagation du virus. Masques chirurgicaux et FFP2, autotests et détecteurs de CO2, les dotations aux 16 collèges publics du 04 sont conséquentes et s'ajoutent à celles de l'éducation nationale. En visite au collège Camille Raymond de Château-Arnoux, la présidente Bareil a aussi évoqué les besoins de l'établissement, son projet pédagogique et les rapports avec le département. Visite constructive avec les membres de son cabinet, mais aussi en compagnie de Sandra Raponi, vice-présidente, déléguée à l'éducation, et Lila Desjardins, conseillère départementale du canton Jarlandin. Je vous propose d'écouter Eliane Bareil à l'issue de sa visite, ainsi que le principal de l'établissement, Frédéric Schmitt, dont l'expérience dans le domaine numérique scolaire sera utile lors de la distribution de tablettes qu'envisage le département vers les élèves basalpins. Eliane Bareil, avant d'entrer dans le détail, vous avez ressenti une émotion particulière ici même, au collège Camille Raymond.
C'est un collège où je viens quand même assez régulièrement parce que je viens pour y chercher quelqu'un qui m'est cher et qui est ici dans ce collège. Mais c'est vrai que l'émotion y était parce que j'ai fait partie des élèves d'il y a fort longtemps qui ont connu la construction de ce collège.
Vous avez en plus évidemment parlé, et c'était le sens de cette visite, du protocole sanitaire et de son application dans un établissement scolaire.
Alors, on n'a pas vraiment parlé du protocole parce que ça, c'est réellement du ressort de l'éducation nationale. Nous venons en complément de ce qui est prévu dans le protocole sanitaire du gouvernement pour fournir des équipements à destination de nos agents de collège. Et donc, nous avions déjà annoncé en début d'année scolaire la mise en place des masques, des tests, etc. Là, nous arrivons avec de nouveaux dispositifs. Nous avons fourni les capteurs de CO2 dans chaque classe et dans chaque collège. Nous fournissons aujourd'hui les masques FFP2 pour une meilleure protection des agents et nous fournissons les autotests à raison de 2 tests par semaine et par agent. Tout cela pour essayer de, non pas de pallier, mais en tous les cas, de lutter avec nos propres moyens, avec ceux du département, contre cette pandémie et en complément, bien sûr, de ce qui est prévu et de ce qui est organisé, non pas par nous, mais par le ministère de l'Éducation nationale.
Alors cette visite au collège Camille Raymond vous a permis de jauger un petit peu ce qui se passe dans ce collège, notamment le projet éducatif, notamment l'équipement de ce collège, son développement, et puis vous avez également parlé d'informatique et des tablettes numériques.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aime aller me déplacer, que je viens toujours volontiers, notamment sur les collèges, mais pas que, parce que au moins on touche du doigt et on entend ce qui se passe et ce dont il est besoin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a parlé des tablettes numériques, puisque nous sommes engagés à fournir les tablettes numériques au 6e. Et c'est programmé, c'est budgété. Sauf que la question qui se pose aujourd'hui avec la mise en place des tablettes numériques et qui pose question tant au niveau des responsables de collège que des parents, c'est l'utilisation, la maintenance, l'assurance, toutes choses qui aujourd'hui ont besoin d'être précisées. Donc nous allons prendre le temps, nous avons pris attache d'un organisme spécialisé qui a d'ailleurs fourni les tablettes numériques en Île-de-France à l'ensemble des lycées. Et nous allons continuer à travailler là-dessus pour proposer, bien sûr, un produit clé en main. Mais quand je dis clé en main, c'est avec les programmes intégrés dans les tablettes et bien entendu toutes les applications nécessaires au bon fonctionnement pour l'élève.
Et vous allez pouvoir bénéficier de l'aide de quelqu'un dont c'est vraiment la marotte et qui connaît bien. C'est le principal du Collège Camille Raymond, Frédéric Schmitt. Le numérique, c'est votre domaine aussi. Déjà par le passé, vous avez eu plusieurs expériences.
En fait, la première expérience, c'était dans ce collège quand j'y étais adjoint il y a quelques années. Et on avait déjà mis à plat le réseau en développant les premiers vidéoprojecteurs à l'époque. Donc, c'était il y a un petit moment déjà. Et après, j'avais fait partie du groupe numérique dans le département qui avait mis en place le NT. Et donc, on avait déjà pas mal réfléchi autour de ça. Et j'ai eu la chance de prendre en responsabilité un établissement scolaire à Saint-André-les-Alpes sur lequel on avait mis en place un établissement numérique. Donc une première expérimentation pour le département, et à l'époque il y avait aussi le collège du Mont d'Or qui était expérimental. Et puis après je suis parti me promener en Outre-mer, et là aussi j'étais en responsabilité d'un établissement numérique dans des quartiers difficiles de Tahiti. Alors, il y a des quartiers difficiles à Tahiti aussi, hein, il n'y a pas que le soleil et les cocotiers. Un établissement en REP+, et donc j'ai un certain regard sur l'utilisation du numérique qui n'est pas qu'un outil à disposition, qui est aussi derrière à intégrer durablement dans les pratiques du quotidien. Et donc c'est ça la plus grosse difficulté, c'est quel est le besoin réel des gens, des enfants, et comment on le réfléchit avec le politique dans la mise en œuvre, parce que les plus beaux projets peuvent capoter sur des détails, sur un réseau Wi-Fi qui ne tient pas, sur une maintenance un petit peu cafouilleuse. Donc on a besoin de donner des gages de confiance, et après de faire adhérer les parents à des nouveaux outils qui pourraient alléger un cartable, qui peuvent aussi être des nouvelles ressources, notamment dans la fracture qu'on peut voir au niveau du numérique sans sur le matériel. Souvent les familles ne sont pas équipées, elles ont souvent une connexion, mais c'est les connexions pour les smartphones, et souvent le matériel qui permettrait de faire de l'éducation ou de la pédagogie sont souvent absents à la maison ou partagés par d'autres frères et sœurs. Donc c'est un plus, notamment dans un risque de pandémie qui pourrait continuer. Donc à nous maintenant d'être facilitateurs, en tout cas interlocuteurs, pour donner un principe de réalité. Il y a un principe de décision politique, après un principe de réalité. Donc il faut qu'on puisse travailler ensemble là-dessus.
Et vous allez travailler également avec la Fédération des parents d'élèves qui vous rejoint dans certaines dynamiques et donc qui apportera son écho à cette opération. Pour ce qui est du protocole sanitaire, ça se passe bien dans votre établissement ?
En fait, on a formé une équipe choc sur le Covid. Donc on fait des cellules qu'on appelle les cellules de crise, mais c'est plutôt des cellules de veille Covid avec tous les personnels concernés, la vie scolaire, l'infirmière. Et on a déterminé les rôles de chacun, en fait, très précisément, avec un côté sanitaire prédominant sur le secret médical et le secret lié à la santé des élèves, donc avec l'infirmière qui est vraiment cheville ouvrière là-dedans, et avec tout un maillage éducatif autour pour bien expliquer la situation aux parents et de travailler vraiment en confiance avec eux. On se rend compte que l'établissement n'est absolument pas un endroit où se propage le virus. On le vit comme tout le monde, mais souvent ce sont des conséquences des vies du week-end ou de la semaine même en famille, des petits frères touchés, des grands frères touchés, ça se passe souvent comme ça. Et on a surtout une communauté scolaire qui réagit bien à tous ces gestes barrières-là. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir effectivement reçu un nouveau niveau de masque, d'avoir des capteurs en salle, parce que ça permet de réactiver toujours la vigilance. Quand on met un nouveau matériel, ça permet aux gens de se réapproprier quelque chose. Les capteurs, aujourd'hui, quand ils sont en salle, les profs se posent la question de savoir quand est-ce qu'on ouvre, comment on ouvre. Et là, ils le font. Alors peut-être qu'avant, la vigilance pouvait baisser un petit peu. Et les élèves, surtout, prennent le relais.
Et puis, il y a également la gestion du personnel, notamment des agents. Et à ce niveau-là, quand ils ont le Covid ou alors qu'ils sont cas contact, vous faites appel au conseil départemental.
C'est exactement ça. On a même des agents responsables qui s'auto-testent, notamment des agents de cuisine, par exemple, le matin, avant de prendre leur poste. Et donc, quand on a eu un cas d'une situation, notamment récemment, on a fait appel au département qui a trouvé des solutions très rapidement. Et surtout, même un plan B qui permettait éventuellement de faire face à une contamination entre personnels. Donc, merci au département de faire ça. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on est en confiance dans les partenariats et on sait pertinemment que nous, on a besoin du département, le département a besoin de nous aussi pour les enfants, donc il faut qu'on travaille de main à la main, quoi. C'est ça surtout.
Sisteron, de 2021 à 2022, l'interview de Daniel Spagnot.
En raison du contexte sanitaire, Daniel Spagnot, maire de Sisteron, président de la communauté de communes Sisteronais-Buèche et président de l'association des maires des Alpes de Haute-Provence, comme l'ensemble des maires du pays, n'a pu présenter ses vœux aux Sisteronais lors de la cérémonie qui ouvre habituellement le calendrier des cérémonies pour les maires du 04. Pour Fréquence Mistral, Daniel Spagnot fait le point sur les événements passés en 2021 et aborde les projets pour la ville de Sisteron et au-delà pour 2022. Il répond aux questions de Chris Alessandri.
Daniel Spagnot, avant l'arrivée de la pandémie, c'est avec vous à Sisteron qu'était lancée l'ouverture officielle des cérémonies de vœux sur l'ensemble du département des Alpes de Haute-Provence. Là, pour vous, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une déception par rapport à ce contact que vous n'avez pas ?
Très déçu et en même temps frustré parce que c'est un moment exceptionnel, privilégié. En début d'année, j'étais toujours le premier à organiser les vœux pour ensuite pouvoir me rendre dans toutes les communes qui m'invitaient du département. C'est un moment où on voit les forces vives de la commune qui se réunissent une fois par an, parce qu'on va qu'à nos occupations, on n'a pas toujours le temps de se rencontrer. C'est l'occasion de présenter par un film toutes les réalisations de l'année, de parler des projets pour l'année qui suit, dans une ambiance toujours très amicale, très décontractée. Moi qui suis quelqu'un qui a besoin de la présence de mes amis autour de moi, je ne manque jamais, vous le savez, d'aller sur le marché tous les samedis matins. Eh bien, c'est vrai, j'ai été très frustré et très triste cette année encore.
Daniel Spagnot, 2021 donc s'est écoulé. Quelles sont les images et sentiments que vous allez garder, l'impact peut-être de cette crise même sanitaire sur non seulement la ville de Sisteron, mais sur le département également?
Bah écoutez, une image quand même un peu triste, un peu difficile. On ne vit pas normalement. Il y a des périodes où on a été confinés, des périodes où ensuite on a été un peu plus libre, mais on peut plus se réunir comme avant. On fait beaucoup de visioconférences, mais on n'a pas le contact direct. On sent la population très inquiète, morose. Je trouve encore plus ce mois de janvier 2022 que l'année dernière. Donc tout ça fait que l'année 2021, on est content qu'elle est finie et on est plein d'espoir pour l'année 2022.
Il y a des projets qui vous tenaient à cœur que vous avez été obligé donc d'abandonner. Le calendrier a été chamboulé, les prévisions ont été chamboulées.
Ah ben bien sûr. Alors même si le plan de relance est arrivé au bon moment, et ça je ne remercierai jamais assez le gouvernement d'avoir eu cette idée formidable de lancer ce plan de relance qui nous a permis de tenir debout parce qu'on avait cet espoir formidable en se disant bon, on a des dossiers prêts, on a travaillé dessus et on va profiter du plan de relance pour réaliser des opérations qui auraient peut-être mis 10 ans avant d'être lancées. Néanmoins, malgré le plan de relance, eh bien, il y a des dossiers qui ont pris beaucoup de retard parce que vous savez, quand vous ne pouvez pas réunir les commissions à temps, il fallait attendre des fois 6 mois avant qu'une commission se réunisse. Alors du coup, bon, la pandémie a fait reculer tous les dossiers et on a perdu environ 6 mois en 2021. J'espère que ça va aller plus vite en 2022 parce que le plan de relance, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que il a été fait pour pouvoir donner du travail aux entreprises. Mais il y a aussi un problème qui me préoccupe beaucoup, qui préoccupe beaucoup les maires. C'est le prix des matières premières qui a beaucoup augmenté, ce qui fait qu'un projet d'un million d'euros, il passe à 1,2 million. Mais la subvention qui a été accordée, elle a été accordée sur 1 million. Donc ça met des communes en difficulté. Donc tout ça, il va falloir qu'on en parle avec Madame la préfète, bien sûr, avec la présidente du conseil départemental et Renaud Muselier, pour voir comment on peut quand même aider certaines communes en faisant une revoyure sur le montant de la subvention.
2021, c'est quand même aussi le label Petite Ville de Demain qui a été concrétisé.
Ah oui, oui. Alors Petite Ville de Demain, ça a été une idée géniale aussi du gouvernement. Au départ, la ville de Sisteron n'était pas éligible. Donc je remercie Madame la préfète, je remercie Christophe Castaner qui ont fait en sorte qu'on puisse devenir, parce que nous on avait déjà fait beaucoup d'opérations de réaménagement du centre-ville, de revitalisation du commerce du centre-ville, mais finalement on s'est aperçu que ce programme Petite Ville de Demain va permettre de lancer de nouveaux projets et on va en faire un petit peu de notre centre-ville un centre-ville modèle qui puisse servir d'exemple aux autres communes qui se lancent dans cette aventure.
Daniel Spagnot, encore juste un tout petit regard simplement sur 2021. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, disons, la population sur le département des Alpes de Haute-Provence, sur la communauté de communes? Est-ce que vous avez senti la solidarité? Est-ce que vous avez senti que les consignes étaient respectées? Quel bilan vous en tirez?
Oui, alors écoutez, écoutez, moi, le bilan que j'en tire, déjà, oui, c'est une solidarité qui n'existait pas. Alors, cette solidarité, malheureusement, elle a pas duré comme j'aurais souhaité. Les 6 premiers mois de la pandémie, il y avait une solidarité extraordinaire. Rappelez-vous, le soir, on applaudissait les uns les autres sur nos balcons ou à nos fenêtres. Et puis, cette solidarité, petit à petit, elle disparaît. C'est dommage. Mais il en restera quand même quelque chose. Et puis, moi, ce que j'en retiens aussi, c'est ce duo extraordinaire qui a fait un travail remarquable pendant tous ces mois. C'est le duo Madame la Préfète et les maires du département. Et je crois que c'est ça qu'il faut développer maintenant. Je crois que le gouvernement a mis du temps, les premiers temps, et il ne reconnaissait pas le rôle des maires dans la pandémie. Et très vite, il s'est rendu compte que si on voulait que la démocratie fonctionne, si on voulait que la vie continue dans les communes, dans nos territoires, il fallait jouer la carte des maires. Et je crois que nous, dans le département, dès le début, Madame la Préfète a voulu la jouer, elle a bien fait. Et je pense que ça a été une réussite et que grâce à ce duo, on a pu passer dans de meilleures conditions qu'ailleurs ce mauvais passage de la démocratie à cause de la pandémie dans le 04.
Daniel Spagnon, en tant que maire de Sisteron, président de la communauté de communes Sisteronnais-Buèche et président de l'association des maires des Alpes de Haute-Provence, comment est-ce que vous abordez 2022? Parce qu'il y a des tas de projets que vous aviez qui sont reportés, qui vont se concrétiser également.
Alors écoutez, ça va mieux depuis 3 mois. On sent quand même que on a pris un rythme. Maintenant, petit à petit, on vit avec ce virus. Et je dois dire que on a regagné un peu de temps.
Daniel Spagnon, année d'élection présidentielle, nous sommes en 2022. De quelle façon est-ce que vous formulez vos vœux à nos auditeurs sur Fréquence Mistral?
Écoutez, moi déjà mes vœux, je souhaite la santé surtout, parce qu'on a vu tellement de décès ces derniers mois qui nous ont beaucoup touchés. Je souhaite vraiment la santé à tout le monde, que ce virus s'en aille, qu'on puisse revivre normalement, je crois qu'on a besoin de ça. Et puis je souhaite bien sûr aussi à cette année qui va être un peu compliqué avec toutes ces élections, je souhaite la sérénité, que tout se passe bien. On peut faire une campagne électorale sans être obligé de s'invectiver, de se disputer. On est un grand pays démocratique, puis que le meilleur gagne. Voilà ce que je souhaite.
Le SDIS 04 remet un véhicule aux pompiers de Sisteron.
Récemment, le centre local de secours et d'incendie a été le théâtre d'une démonstration d'intervention sur extinction de feu réalisée par les sapeurs-pompiers de la cité de Pollarennes. Au cœur de ce déploiement de précision et d'efficacité, la nouvelle acquisition des pompiers sisteronnais, un fourgon pompe-tonne, véhicule à la pointe du progrès. Citons entre autres parmi ces innovations technologiques une boîte robotisée permettant sur le terrain une conduite plus pratique et une pompe caméléon permettant une projection de mousse très efficace pour l'extinction des feux. Un investissement de 280 000 euros pour ce nouvel engin offert par le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Au micro de Chris Alessandri, les explications pour cette nouvelle acquisition et sa présentation avec Jean-Claude Castel qui préside le SDIS 04, Eliane Barret, présidente du département, le maire de Sisteron, Daniel Spagnou, et le colonel Christophe Péchou, directeur départemental du SDIS 04.
Jean-Claude Castel, ici même, donc à la caserne de Sisteron, démonstration efficace. L'intervention même sur le terrain, c'est quelque chose que vous avez en priorité en tête?
Ah, bien entendu, quand j'ai accepté à la proposition de Mme Barret de prendre la direction du CASDIS, j'avais une vision à moi de la chose et aujourd'hui je suis toujours au plus près des pompiers sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des gens qui pour la plupart sont volontaires. Donc si on ne leur témoigne pas un peu d'affection, de reconnaissance et de respect, ça sera de plus en plus difficile d'en avoir. Donc aujourd'hui, affecter un nouveau camion qui coûte 280 000 euros, c'est une preuve de confiance et de respect. Les pompiers l'accueillent avec plaisir, avec reconnaissance, et le fait que nous soyons là au plus près d'eux le plus souvent possible, ça va aussi dans ce sens.
Jean-Claude Castel, vous êtes souvent au contact donc des sapeurs-pompiers. Est-ce qu'on peut dépeindre l'esprit à l'heure actuelle dans le contexte actuel de ces spécialistes?
Ben, le contexte actuel, bien entendu, il y a un peu une lassitude, comme dans l'ensemble de la population, de toutes ces mesures qui nous minent toute la journée, qui empêchent de vivre normalement, ça c'est normal. Après, le fait qu'il y ait quelques pompiers qui aient été suspendus, ben, ça met un peu plus de pression sur ceux qui sont là, qui sont donc plus sollicités. Alors, il ne faudrait pas que ça s'éternise trop, parce que sinon, on va avoir des défections, quoi. Moi, c'est ce que je crains, c'est ce que j'ai peur. Donc, on essaie de les cajoler le plus possible pour justement éviter cela.
Alors, le fait d'apporter du matériel neuf et performant, eh bien, ça contribue largement.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un signe de reconnaissance. Voilà, de construire une nouvelle caserne. Là, on a lancé un plan bâtimentaire. Le département est de retour au financement. On va réussir en quelques années à en faire quelques-unes de neuves. D'abord Sisteron, puis Riez, puis il y a des gros travaux à Péruy, puis il y a des gros travaux à Colmar-les-Alpes qui sont prévus. Bon, mais tout ça, ça va dans le sens de la valorisation de nos pompiers.
Éliane Barré, c'est un investissement très important qui a été réalisé avec l'achat de ce nouvel engin, 280 000 euros. Quelle est votre réaction là ce matin après la démonstration?
Ma réaction est très positive parce que bien entendu, on voit bien que les méthodes et les matériels évoluent beaucoup et très vite et que là aujourd'hui, on a doté le centre de secours d'un matériel exceptionnel, puisque exceptionnel à double titre, de par son action et de ses interventions possibles, notamment sur les feux en stand, en centre ancien qu'en extérieur, et bien entendu aussi un équipement quand même extrêmement important au point de vue financier. On voit bien qu'aujourd'hui, les pompiers sont confrontés à ce problème de financement puisque leurs équipements sont fort coûteux et à la fois fort performants.
Éliane Barré, ce qui vous tient également à cœur, c'est la vision des jeunes vis-à-vis des pompiers, l'engagement des jeunes auprès des pompiers. Je vous ai vu poser des questions justement aux gradés qui sont là pour savoir un tout petit peu de quelle façon ça pouvait évoluer et mieux évoluer éventuellement.
Effectivement, il faut souligner ce qui a été mis en place notamment à la Motte du Caire avec des jeunes collégiens qui sont intégrés donc dans ce cursus sécurité, sécurité aux personnes et sécurité incendie. Ceci étant, ça peut pas s'arrêter là, donc ces jeunes collégiens quand ils vont arriver en troisième, il faut aussi qu'ils aient un débouché. Donc le débouché aujourd'hui sur le département, il n'y est pas. Je vais saisir l'occasion qui m'est donnée dans quelques jours de rencontrer le recteur en présence de Madame le Préfet pour en parler et pour parler de la suite. Suite qui était plus ou moins programmée déjà dans le cadre donc d'un bac pro sécurité au lycée Paul Arène. Donc il faut réellement maintenant le mettre en place. Il ne reste plus qu'une année pour que ces jeunes puissent y accéder. Ça nous donnera d'une part, je pense, un vivier pour des jeunes sapeurs-pompiers pour nos centres de secours, puis aussi une motivation pour cette jeunesse dans le cadre des métiers de la sécurité, pas forcément que des pompiers d'ailleurs. Je pense que c'est extrêmement important.
Daniel Spagnou, on sait l'attachement que vous avez auprès des pompiers en général, du STIS en particulier, et l'importance de la présence des pompiers à Sisteron, et aujourd'hui visiblement une démonstration qui vous satisfait.
Ah ben oui, c'est un cadeau de Noël de la part du STIS, ce magnifique véhicule très moderne, qui va permettre donc aux sapeurs-pompiers d'intervenir encore dans de meilleures conditions pour les feux de forêt. Donc on ne peut que remercier bien sûr le STIS, remercier la présidente du conseil départemental. Cette année, vous savez qu'on va commencer aussi la construction de la nouvelle caserne de pompiers. Donc ça va être vraiment l'année des sapeurs-pompiers de Sisteron.
Sur combien de communes le rayonnement de ce nouveau camion, de ce nouvel engin ici à Sisteron?
14 communes. En tout. Oui, il y a un rayonnement. Et puis en même temps, on voit bien, il y a 80 pompiers. On n'en a jamais eu autant. Donc ça montre bien que la vocation de sapeurs-pompiers bien continue et on ne peut que s'en réjouir. Et je pense qu'avec l'école de formation qui a été créée à la Motte du Caire pour les jeunes qui vont jusqu'au brevet, eh bien, c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'avoir une pépinière de jeunes qui ensuite vont venir dans nos diverses casernes du département.
Colonel Christophe Péchou, démonstration donc avec un nouvel engin que vous venez d'acquérir. Nous avons le top au niveau technologique des engins des pompiers ici à Sisteron.
Oui, c'est vraiment un bel équipement qui vient d'être affecté aujourd'hui au centre de secours de Sisteron, qui réunit l'ensemble des dernières normes et puis des capacités techniques qui permettent l'intervention de nos sapeurs pompiers dans les meilleures conditions possibles, oui.
Colonel, juste pour survoler un tout petit peu les performances de cet engin qui est en présentation ici aujourd'hui.
Donc avec cet engin qui est vraiment polyvalent, on peut lutter efficacement avec des moyens traditionnels, en eau, mais aussi en mousse, pour tous les feux qui peuvent être plus techniques. Et puis on a des moyens de sauvetage qui nous permettent de venir secourir des personnes dans tout type de situation, grâce à des échelles et à des lots de sauvetage qui nous permettent de les en extraire. Et puis pour nos sapeurs-pompiers, ce sont des gages de sécurité sécurité accrue, avec des appareils respiratoires isolants qui sont intégrés dans la cabine et avec un balisage complet qui nous permet d'assurer la protection du véhicule, y compris sur les interventions de nuit ou sur autoroute.
Alors sur le terrain, il faut être rompu bien sûr à l'exercice, mais rompu également à ces nouvelles techniques. De quelle façon est-ce que vous entraînez vos hommes ? Sont-ils déjà préparés à ce nouvel engin ?
Oui, en fait, l'ensemble de nos sapeurs-pompiers suivent une formation initiale et continue sur tout ce qui est manœuvre d'incendie et de sauvetage. Donc là, on a affaire à des matériels qui sont standardisés et des manœuvres qui sont normalisées chez nous. Maintenant, à partir du moment où on a un nouveau véhicule, il faut bien entendu se familiariser avec. Et donc, au moment où il est affecté dans le centre de secours, le constructeur de ce véhicule nous assure une formation qui ensuite est dispensée à l'ensemble du personnel.
Scientifique et littéraire, une société dynamique.
La société scientifique et littéraire a 144 ans d'existence et compte aujourd'hui 300 membres et recrute de nouveaux bénévoles. Les activités principales de la société sont la publication de 2 chroniques annuelles d'environ 150 pages chacune et des conférences chaque premier mercredi du mois à 18h15. Parmi le public, beaucoup de passionnés mais aussi des personnes qui aiment découvrir et s'enrichir de connaissances nouvelles. Attention, la jauge des places étant limitée à 37 personnes dans la salle de l'Atrium à Digne-les-Bains, il vaut mieux réserver sur info@memoire04.org. Répondant aux questions d'Odile Frison, le président de la Société scientifique et littéraire présente la structure et la conférence du mois de février. Patrice Borel.
Cette année passée a été très particulière. Sachez que notre société va fêter cette année ses 144e année d'existence. C'est l'association la plus ancienne de notre département. Et en 144 ans d'existence, ces activités n'ont été que très très rarement suspendues, et en particulier pour des épisodes de guerre, tant la Première Guerre mondiale que la Seconde. Donc vous imaginez bien que nous avons vécu cette année ou ces 2 années pratiquement de pandémie avec difficulté. Notre société repose essentiellement sur une double activité, une qui concerne nos parutions écrites et l'autre nos conférences. Les conférences, effectivement, nous y reviendrons, ont été suspendues, mais par contre, nos publications ont été respectées, non sans mal, avec toutes les difficultés pour accès à nos bureaux, etc. Mais bref, nous y sommes quand même arrivés, donc nous avons publié en 2021 2 chroniques, puisque tel est le nom de nos publications, les chroniques de la Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence. Donc une en juin et une en décembre, ce sont des opuscules d'environ 150 pages chacun, qui sont distribués gracieusement bien entendu à nos adhérents, mais qui se trouvent aussi en vente libre dans les librairies spécialisées.
Ces chroniques étaient sur quel thème ?
Alors, nos chroniques regroupent plusieurs thèmes pour chaque numéro, sachant que ce sont obligatoirement, ça fait partie du cahier, des textes inédits et si possible quand même des sujets locaux ou locaux régionaux. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, je ne vais pas tout vous citer, mais nos 2 revues, les 2 dernières parues, du GFAR si vous voulez, pour la parution du numéro 385 paru en juin, comportait notamment un sujet d'actualité, si j'ose dire, enfin du moins c'était un clin d'œil, puisque le titre commence par « Mesures de confinement ». Alors vous voyez le clin d'œil, avec la différence que ça n'était pas sur la pandémie Covid-19, mais sur la peste de 1720. Donc déjà pour expliquer un peu comment la chose avait été gérée, donc c'est un article du docteur Bernard Renouf, qui a publié plusieurs fois dans notre revue. Et puis il y avait aussi des sujets très locaux, dont un sujet sur le couvent des Cordeliers, sur la rue des Durands, de Digne-les-Bains, un article sur Cécile Sauvage, et j'en passe. Notre dernière parution, donc du mois de décembre 2021, numéro 386, quant à lui, il y avait 2 articles phares. Un qui est traité du château des Hautes-Sieilles, bien connu des Dinois, puisque les Hautes-Sieilles surmontent notre ville. Et puis aussi un sujet conséquent, dû à notre secrétaire général, Jeannine Cazer, qui traitait du Laverque. Voilà pour les sujets les plus importants. Le numéro 387 apparaître en juin est déjà en cours de fabrication. Ça intéresse les gens de notre département, puisque nous sommes une association départementale, sachant toutefois que nous avons aussi des adhérents dans toute la France, même à l'étranger, par le biais de facultés ou d'universités, jusqu'à en Israël, en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. La deuxième actualité, si j'ose dire, mais tout cela avec réserve, bien entendu, c'est toujours pareil, concerne nos conférences. Alors, depuis maintenant plusieurs décennies, la société organise chaque premier mercredi du mois, sauf imprévu, mais en général, c'est le premier mercredi du mois, en soirée, à partir de 18h15, une causerie conférence sur des sujets variés. Malheureusement, en 2020, nous avons commencé la saison, puis nous avons été obligés de l'interrompre. En 2021, nous avons été obligés d'annuler toutes nos activités, et donc nous allons reprendre en 2022 ces activités, sachant toutefois qu'elles vont être très limitées, d'abord parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait, si j'ose dire, et ensuite le lieu où ça se déroule a changé pour des raisons de travaux, et ça se fera dans la salle de l'Atrium qui est contiguë à l'hôtel de ville de Digne-les-Bains. Sachant que c'est toujours aux mêmes horaires, toujours le premier mercredi du mois, ce sont des conférences causeries gratuites, ouvertes à tout public. Il n'y a pas besoin d'être adhérent à notre association pour y assister. Et tout cela commence par le mois prochain, le mercredi 2 février, donc à 18h15. Pour tout vous dire, c'est un sujet très polémique, mais qui me tient à cœur. C'est une conférence qui s'intitule « L'étrange histoire des jumères et des jumards, une curiosité zoologique des Basses-Alpes ». En fait, cette espèce animale serait, selon ce que nous disent les spécialistes, issue d'un croisement anormal entre une ânesse et un taureau. Certaines espèces ont été recensées, notamment au XVIIIe siècle, dans notre département. Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Je ne peux pas vous en dire plus. Le spécialiste qui nous traitera du sujet est un agrégé de l'université, Daniel Mélé, qui vient de présenter ce sujet à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, ce qui est quand même une référence. Et donc, nous sommes très impatients de savoir s'il s'agit vraiment de quelque chose de réel ou si c'est une élucubration. Nous avons beaucoup de sympathisants, de personnes âgées qui malheureusement arrivent forcément comme nous tous un jour au terme de leur vie, et nous avons moins de jeunes ou de moins jeunes, mais d'actifs du moins, qui rentrent à la société, sachant qu'il suffit de postuler et bien entendu de payer une cotisation. Voilà, le déficit est là, il faut bien, c'est pas trop dans l'air du temps, mais c'est dommage, parce que pour nous, c'est une sauvegarde de la culture de notre département, du moins de sa mémoire. Nous sommes bien entendu preneurs de toute suggestion, de toute aide, nous sommes tous bénévoles, donc nous avons du travail, parce qu'il y a un comité de lecture, il y a des activités incontournables, et puis il y a des domaines où nous sommes peut-être pas assez compétents en informatique, peut-être que la venue de sang nouveau et de compétences nouvelles serait bienvenue. Donc s'il y a des personnes qui se sentent l'âme culturelle au point de venir nous aider, surtout qui nous contactent.
Un projet d'énergie solaire est en gestation à Bannon.
Les centrales villageoises Lure Albion sont une société locale qui réalise des projets locaux et écologiques par la mise en place de panneaux photovoltaïques de Sault à Lurs en passant par Reillanne ou encore Fort-Calquier. Aujourd'hui, la structure nourrit un projet ambitieux en cours de développement qui consiste à l'installation d'un système d'énergie solaire sur le site de l'ancienne décharge de Bannon. Le but est de subvenir à une partie de la consommation électrique des habitants tout en participant à la sensibilisation de la population à sa propre consommation et aux possibilités d'économie. Philippe Loger et Nicolas Hoth, les deux coprésidents des centrales villageoises Lure Albion, tous deux habitants du territoire de Bannon, présentent ce projet au micro de Mathieu Marc.
La centrale villageoise Lure Albion est une société coopérative et en fait qui a été créée à partir d'un modèle promu par l'agence Rhône-Alpes Environnement Énergie. Ça nous a permis une grande aide pour la création, donc on était la huitième société créée sur ce modèle-là. À l'heure actuelle, il y a 50 sociétés centrales villageoises dans la France, principalement dans le Grand Est, et il y en a déjà 34 en exploitation.
Par rapport aux projets qui sont menés par cette centrale villageoise Lure Albion, concrètement, sur Bannon, sur l'ancienne décharge, vous avez un projet en cours? En quoi consiste-t-il ?
Oui, tout à fait. Nous avons un projet en cours qui se veut un peu un fer de lance de la nouvelle trajectoire qu'on veut essayer d'impulser aux centrales villageoises de l'Uralbion, où l'idée, c'est d'avoir un projet de plus grande taille. On a initié le mouvement avec des solutions plus simples, des petites toitures dont toute la production est vendue à EDF, obligation d'achat, à un tarif défini. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on essaye d'aller au-delà et de construire un moyen de production qu'on va réellement utiliser pour fournir les habitants du territoire, donc dans un premier temps certainement de Bannon. Mais l'idée, ça va être aussi de démultiplier ce genre de projet pour fournir réellement l'ensemble du territoire couvert par les centrales villageoises de l'Uralbion.
C'est possible de réaliser aujourd'hui de l'autoconsommation sans passer par EDF et une revente ?
Quand on veut avoir un bénéficier d'un dispositif de soutien, on va devoir effectivement passer par EDF obligation d'achat ou par des acteurs qu'on appelle agrégateurs. Mais on peut très bien, légalement, construire un moyen de production, le raccorder au réseau dès lors qu'on respecte l'ensemble des spécifications, et ensuite utiliser soit dans des schémas d'autoconsommation crédible, dans des schémas d'offres locales avec des partenaires fournisseurs, on vend cette production en fait à un intermédiaire qui la redistribue à l'ensemble des consommateurs qui vont souscrire ces contrats de fourniture, tout comme aujourd'hui des gens ont souscrit des contrats de fourniture chez EDF, chez Enercoop, chez Planète Oui, chez Total Energy, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de passer d'un modèle où on se soucie uniquement de la production à un modèle où on se soucie de l'approvisionnement du territoire en adéquation en termes où est-ce qu'on peut les mettre sans que ça soit impactant d'un point de vue environnemental, d'un point de vue paysager, d'un point de vue d'acceptabilité sociale, et combien il faut-il en mettre par rapport aux besoins énergétiques du territoire. C'est un peu tout le sens de cette logique de décentralisation qui, en France, est compliquée à mettre en œuvre. Il y a plus que des réticences et des oppositions, mais on voit que ce sont des modèles gagnants et qui ne sont pas dans une logique d'autarcie, parce que le projet ne vise pas à dire avec ces centrales, on va être en autonomie. Non, c'est avec ce projet-là, on va pouvoir contribuer collectivement à gérer une partie de nos besoins. Tout comme si on prend le parallèle alimentaire, dans la région, il y a des potagers, alors qu'ils soient particuliers ou des maraîchers, de fournir une partie des fruits et légumes que les gens aiment consommer. Mais si je prends les clémentines, qui est un fruit de saison, on ne peut pas les produire sur le territoire. Donc on a forcément besoin de solidarité avec d'autres territoires. C'est un peu la même image, la même démarche dans le domaine énergétique.
Par exemple, spécifiquement sur Bannon, il y aura une partie de consommation d'énergie qui sera liée à ce projet et puis une consommation traditionnelle.
Voilà, tout à fait. Les besoins seront couverts en priorité par la production de cette première centrale. Et bien évidemment, quand il n'y aura pas de soleil ou quand il fera nuit, mécaniquement, ce sera d'autres moyens de production distribués sur le territoire qui participeront à l'approvisionnement de ses clients. Mais des enjeux, c'est d'adapter sa consommation, de consommer différemment. Et ça va être aussi un travail que les centrales villageoises vont essayer de mener en termes de pédagogie, sans forcément avoir besoin de mettre en place des dispositifs techniques de pilotage, mais à minima dire votre lave-vaisselle, votre lave-linge, faites-le fonctionner la journée quand il y a du soleil, parce que c'est là où on produit localement. Et de même, quand on voit la mobilité électrique qui se développe, dans ces cas-là, pensez plutôt à recharger sa voiture en journée, quand il y a de la production locale, renouvelable et à faible empreinte carbone, plutôt que de se dire « je vais le faire fonctionner la nuit parce que je n'y avais pas pensé la journée et que c'est le soir où je pense à brancher mon téléphone portable, ma voiture ou mon ordinateur portable ». Donc il y a une façon en fait de consommer qu'il va falloir faire évoluer, qui va être un premier palier pour justement permettre d'utiliser au mieux cette production renouvelable. Pour avoir du courant, c'est très simple. La lumière, on appuie sur l'interrupteur et on a la lumière. On se pose pas plus de questions que ça. Alors que derrière, la façon dont on consomme peut avoir des impacts environnementaux et des impacts financiers très importants.
prépa sport d'Aix-en-Provence en formation VTT Agréo.
Une dizaine de futurs moniteurs VTT de la promotion prépa sport BPJEPS CA basée à Aix ont clôturé leur formation en alternance sur les sentiers de la cité thermale. Au-delà de l'aspect sportif, la journée a porté l'accent sur le guidage vélo à l'aide de GPS dédié. Par équipe de deux cyclistes, les étudiants ont réalisé des exercices en autonomie sur le nouvel espace Provence-Verdon VTT, lancé par l'Office de tourisme communautaire de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, site labellisé par la Fédération française de cyclisme, avec 52 parcours balisés, toute longueur et tout niveau, de la Haute-Provence au Haut-Var, via Valensole et les Basses-Gorges du Verdon. Travaux pratiques donc pour ces étudiants qui ont été guidés et encadrés par Thierry Batac pour l'Office de tourisme et son collègue Antoine Riffaut, moniteur vélo et activités de pleine nature, mais également intervenant auprès de Prépa Sport sur les modules orientation et GPS. Les deux formateurs répondent à mes questions. Antoine Riffaut, quelle est cette formation que vous accueillez à Gréoux-les-Bains ?
À Gréoux-les-Bains, aujourd'hui, on accueille une formation qui c'est les BPJEPS AC, donc c'est un brevet professionnel tourné pour le VTT ou le vélo en général, et c'est soutenu par l'école Prépa Sport Aix-en-Provence, et on les reçoit aujourd'hui à l'Office de tourisme de Durance-Luberon-Verdon Agglomération pour des exercices techniques sur le terrain liés à la pratique du GPS.
Ils se préparent donc à une activité touristique et cycliste ?
C'est ça, mais c'est aussi pour de l'encadrement d'associations en plus, par exemple.
Ce sont des personnes qui viennent de tout le territoire et, ou qui découvrent ce territoire ?
Là, c'est principalement un public qui vient du sud-est, mais ça peut être aussi plus large. Et là, oui, cette année, ils découvrent le territoire. Ils connaissent pas forcément le site VTT pour lequel ils vont rouler aujourd'hui, à savoir Provence-Verdon VTT.
Le profil, ce sont des gens qui ont le même âge, qui viennent du même milieu ?
Donc là, on peut avoir tout type de profil, hein, que ce soit une reconversion ou une formation initiale ou un complément, de tout âge, que ça va de 18 à 60 ans même pour cette année, et de tout horizon.
On imagine évidemment une formation sur le terrain et sur un vélo, bien sûr, mais il y a aussi peut-être une formation qui se fait dans une salle.
Bien sûr, hein, il y a toute une préparatif en salle comme beaucoup de formations. Et puis c'est très bien parce que le métier du moniteur VTT comme tant d'autres, il y a beaucoup de préparation aussi en amont en informatique, en bureautique, administratif. Donc c'est très important. Ouais.
Vous êtes vous-même salarié de l'Office de tourisme DLV à Aglo. C'est un métier d'avenir.
Oui, à partir du moment où un territoire, une commune ou autre mise sur le tourisme et le sport, ce sont des profils qui peuvent être très, très intéressants avec qui travailler. Ouais.
Et c'est une formation qui dure 600 heures, c'est conséquent.
Eh oui, ça fait une année, c'est ça, hein, comme une année scolaire, plus le temps en stage. C'est quasiment un petit mini-emploi l'année pour eux.
À vos côtés, Thierry Batac, qui est en charge de ce groupe, justement. C'est un groupe où il y a une convivialité particulière sur un vélo.
Oui, tout à fait. Nous partageons au quotidien un petit peu toute la formation, que ce soit une formation à l'école, que ce soit la formation sur nos différents terrains de stage. Nous avons créé justement un lien assez étroit de par cette possibilité de pouvoir s'aider, se compléter, voilà, avec des profils de vie et des profils d'âge complètement différents.
Vous allez partir dans la nature, là, mais en même temps, vous allez aussi utiliser du matériel nouveau et notamment des GPS.
Oui, alors le GPS par lui-même, c'est un outil qu'on a commencé à acquérir grâce à Antoine Riffaut, la personne qui est sur Gréoux-les-Bains, à l'Office du tourisme. Et au fur et à mesure de notre formation, on commence vraiment à maîtriser ce nouvel outil, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir l'utiliser auprès de groupes ou à titre personnel pour découvrir de nouveaux horizons.
Pour être animateur cycliste, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, comment ça se passe ? À qui faut-il s'adresser ?
C'est moniteur guide et animateur aussi dans le domaine du cyclisme. Donc c'est le cyclisme au sens large, hein, notre formation, que ce soit du VTT, du vélo-route, du BMX. Il y a une présélection pour entrer dans cette école après passeport, un examen pratique et un examen écrit qui permet justement de pouvoir valider la formation. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, à partir de mi-septembre, on a une formation sur 10 mois avec 600 heures donc de pratique en structure et 600 heures de pratique par contre au sein de l'école à Prépa Sport à Aix.
Il faut quand même signaler que c'est une activité physique importante. Et là, vous allez partir pour une randonnée de combien de kilomètres ?
Oui, alors aujourd'hui, il est prévu à peu près 40-50 kilomètres de parcours. Mais il faut savoir que nous, on pédale pratiquement tous les jours. Hier, on a fait 50-60 kilomètres en véloroute. Et demain, on sera dans nos structures, on fera à peu près une trentaine de kilomètres en VTT. C'est pratiquement du quotidien, de quel que soit le vélo, hein, que ce soit du route, pour certains du BMX ou du VTT.
Et c'est un vélo qui peut être à assistance électrique aussi et qui sont notamment prêtés par Bachelas.
Habituellement, on utilise très peu de vélos électriques. Aujourd'hui, c'est un peu l'exception parce qu'on fait surtout du guidage et avec cet appui GPS. Donc, pour faciliter, pour que ce soit beaucoup plus convivial aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir un maximum de vélos électriques. Bachelas, la structure qu'on connaît sur le territoire, hein, qui est basée à Manosque, qui a une antenne à Gréoux, nous a gentiment prêté des vélos.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Merci Olivier pour la régie. Et à la semaine prochaine.